Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monseigneur, Supérieur Général de la Fraternité, Excellence, chers confrères dans les sacerdoces, chers ordinants, mes bien chers frères, je pense qu'aujourd'hui nous pourrions refaire la prière du psalmiste. Plus que jamais, il est approprié. Salvum me fac, Domine, quoniam non est santus, quoniam diminuti sunt veritatis a filiis hominum. Sauvez-nous, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de saint, il n'y a plus de sainteté, parce que les vérités ont été diminués par le Fils des hommes. Effectivement, nous devons toujours le répéter dans ces occasions, dans ces cérémonies. L'Église souffre une sorte d'éclipse. Qui empêche la lumière de la foi et la chaleur de la grâce, de la charité, de se répandre dans le monde. Et alors ce sont les ténèbres. Et il ne faut pas minimiser la situation par le fait qu'elle devienne normal, habituel, on pourrait dire même institutionnel dans l'Église. Plus le temps passe, plus les principes contraires à la foi catholique, les principes modernistes, inspirent et dirige et l'enseignement et la pratique de la soi-disante Église conciliaire. Il suffit de voir comment aujourd'hui la fin qui commande, qui dirige toute l'activité de l'Église d'aujourd'hui, c'est la rencontre œcuménique dès l'année 2000, la rencontre panchrétienne et des monothéistes dans le Sinaï, et l'attente d'une nouvelle ère. De ces nouveaux ordres qui s'instaurent dans le monde. Tout est commandé, dirigé par ce but immédiat. Et alors la démolition de l'Église continue. Et ce qui vraiment nous sépare d'eux, c'est la foi. Si nous sommes en difficulté avec Rome, c'est à cause uniquement de la foi catholique. On pourrait dire que c'est la continuité, la fidélité face à la rupture, au mépris. Car enfin, pourquoi nous faisons cette cérémonie d'ordination? C'est pour continuer l'Église, tout simplement. Pour garder la foi. Nous n'avons rien inventé. Nous croyons ce qui a été cru toujours dans l'Église catholique. Nous ne faisons que ce qui a été fait toujours dans l'Église catholique. nous avons gardé jalousement le dépôt de la foi, la liturgie, le culte, la sainte messe. Alors où est le péché? Où est la faute? Dans la fidélité. Et par contre, nous voyons de la part des autorités romaines d'une volonté de rupture avec l'Église catholique qui ne change pas, qui est toujours la même. L'Église hier, aujourd'hui, et toujours dans les siècles de siècles, elle est la même. Et pour eux, il n'y a qu'une seule vérité, c'est la vérité du Concile. La vérité de cette nouvelle religion. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a pas. Et la preuve, c'est que dans l'enseignement actuel, il n'y a aucune référence au passé de l'Église, à l'enseignement traditionnel de l'Église. Évidemment, parce qu'il y a une contradiction. Et c'est là le fond du problème. Autrefois, l'Église, toujours, elle essayait de christianiser le monde. Mais en Vatican II, ils ont mondanisé, pour ainsi dire, l'Église. Ce n'est plus la lumière de la foi qui éclaire la pensée, les principes, les problèmes du monde moderne. Mais le contraire, ils ont réinterprété la foi à la lumière de la pensée moderne, de la philosophie, la politique, les principes du monde moderne. Et alors ils sont tentés, évidemment, l'impossible, de concilier des principes irréconciliables. Autrement dit, de trouver une conciliation entre le Christ et Bélial, entre les lumières et les ténèbres. Car enfin, cela est évident. Quelle entente, quelle conciliation, par exemple, entre la loi des dieux, la loi surnaturelle, la loi naturelle, les commandements divins et la liberté absolue des consciences, avec tout le cortège des libertés, des fausses libertés, du libéralisme. Quelle conciliation possible? Entre le péché originel et cette idée nouvelle, la bonté foncière de l'homme, de la personne humaine. Entre l'existence du péché et la dignité sacrée et inaliénable, inadmissible de la personne humaine. Entre la divinité et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, les droits de l'Église et le laïcisme. Quelle possibilité d'entente entre le concept d'une Église hiérarchique, monarchique, donc du principe d'autorité et l'égalitarisme absolu prôné par le monde moderne. Entre la nécessité de la foi catholique pour le salut et le subjectivisme de la connaissance, entre le culte de Dieu et le culte de l'homme, les droits des dieux et le droit de l'homme, proclamée par la Révolution française. Entre la vie de chasteté, continence, modestie, qui nous demande le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, et ce monde perverti dans le vice, et par des lois, entre la nécessité de l'Église et l'indifférentisme religieux, quelles possibilités d'accord? Eh bien, ils ont cherché ça. Et nous voyons le résultat. C'est l'écuménisme, c'est la collégialité, c'est la liberté religieuse. C'est l'humanisme personnaliste. C'est la rédemption universelle. C'est le christianisme anonyme, qui n'est autre chose qu'un accord avec le naturalisme du monde moderne. C'est la moralité des situations, des globalités, des gradualités, où finalement il n'y a plus de normes morales, plus de péchés. C'est l'identification de l'Église avec l'humanité. Et c'est même parfois la négation de vérités essentielles, d'une façon ouverte. Eh bien, face à cette rupture, nous opposons la fidélité et la continuité. Et par cette fidélité à la foi, nous montrons, nous démontrons notre attachement au successeur de Pierre et à l'Église. Car le pape est constitué non pas pour inventer une nouvelle doctrine, mais pour transmettre fidèlement, jalousement, le dépôt de la foi. Et si on reconnaît l'autorité de l'Église, l'autorité du pape, c'est parce qu'on a la foi, et non pas le contraire. On n'a pas la foi parce qu'on obéit au pape. C'est à cause de la foi qu'il existe l'obéissance dans l'Église. Eh bien, c'est à cause de la foi que nous sommes obligés de résister. Évidemment, ceux qui veulent vivre chrétiennement subiront persécution nécessairement, et puis aujourd'hui plus que jamais, puisqu'ils veulent imposer cette vérité. Et alors, on se fait traiter d'excommuniés, de schismatiques, or il n'en est rien, évidemment. Même si dans leur fantaisie, nous ne faisons pas de cette utopie qui est leur Église. Mais la réalité, elle va par un autre chemin. En fait, nous faisons toujours partie de l'Église. Déjà, on peut prouver, d'ailleurs sans besoin de l'abbé Mouray, on peut prouver en lisant tout simplement le droit canon, que même au point de vue légal, il n'y a pas eu d'excommunication le jour des sacres. C'est leur droit. Cela a été déjà expliqué, démontré. Nous avons démontré, et par nos déclarations, et par notre enseignement, et par la pratique, qu'il n'y a pas de schisme. Nous n'avons pas établi une autorité parallèle. ne sont pas soumis à une autorité étrangère quelconque. Et puis ce qui compte, ce n'est pas finalement le formel, mais le fond. On ne peut pas être hors de l'Église à cause de l'attachement à la foi. C'est impossible. Alors, qui s'éloigne de la foi, de l'Église? Et alors, nous devons aujourd'hui faire particulièrement attention à quelques dangers qui s'en suivent, qui se suivent de cette politique, de nous imposer, coûte que coûte, cette autre religion, cette autre foi, qui n'est plus la catholique, car c'est là qu'il y aura vraiment des dangers pour nous, pour les prêtres, pour vous, chers ordinaires. Je pense qu'il y a comme premier danger, c'est la faiblesse, la lassitude du combat qui peut ouvrir la porte à ce qu'on appelle le ralliement. C'est un danger évident. Et ils sont deux voies pour le faire. Nous en avons l'expérience. Soit on permet quelques réserves au sujet du concile, donc à niveau des principes, mais alors il faut accepter la nouvelle liturgie, la nouvelle messe, la pratique. Et alors ils savent qu'à la longue, on arrivera aussi à en avoir les principes. Soit on vous laisse la messe, on vous laisse la pratique, mais on vous fait admettre les principes. Et alors à la longue, ils savent que... À ce sujet, j'ai un cas très récent, en Espagne. Un jeune prêtre qui est arrivé à la tradition tout seul, presque miraculeux, et qui met comme condition à son évêque de dire toujours la messe de Saint-Pie V et de prêcher librement la foi catholique, même en critiquant le Concile Vatican II. Alors son évêque lui offre l'indulte, il lui dit non, pas besoin d'indulte, j'ai droit à dire la messe de Saint-Pie V, très bien, d'accord. Il lui donne la permission, il l'ordonne. Mais peu de temps après, cet évêque arrive à l'âge aujourd'hui de la retraite, de la démission, et ce prêtre qui a trois paroisses, qui a des fruits abondants dans son apostolat, bien, il commence à être persécuté. Et en attendant l'arrivée du nouvel évêque, il nomme l'archevêque de Tolède, donc le primat d'Espagne, temporairement, comme vicaire dans cette diocèse, et il se charge de régler le problème de ce prêtre. Alors il est menacé tour à tour de la police, d'un procès, d'être interné dans un hôpital psychiatrique à cause de son attachement à la foi. Et dans un moment de colère, l'archevêque de Tolède lui dit qu'il a été nommé parce que le nonce voulait régler les problèmes de ses prêtres. Donc il faut nommer un primat de l'Espagne pour régler le problème d'un prêtre qui est fidèle à la foi catholique. Évidemment, il ne trouve rien, donc il ne règle rien. Le nouvel évêque arrive et il essaie la voie de la douceur, d'attirer le prêtre. Le prêtre donne le fondement de sa position. Il ne trouve non plus rien à lui dire de son apostolat, mais il est décidé quand même à le suspendre. Alors le prêtre lui dit, d'accord, mais alors vous mettez une raison, sinon c'est invalide. Et alors vous mettrez comme raison que je ne veux pas dire la nouvelle messe et que vous voulez m'obliger à la dire et que le problème est là. Et alors l'évêque le met. Ensuite il revient en arrière. Les pourparlers durent des mois. Et finalement, la dernière lettre, l'évêque lui dit, vous devez me répondre par écrit si vous acceptez le Concile Vatican II ou non. Voilà. Soit on accepte la nouvelle messe, la nouvelle liturgie, soit on accepte le Concile. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre vérité. Et alors évidemment, le prêtre répond non, et il donne raison. Et bien sûr, la suspense va venir. Alors ils ne veulent plus de la tradition, ils veulent finir avec la tradition et donc avec la foi. Alors qui sont excommuniés? Qui sont schismatiques? Qui sont apostats? Si nous savons pécher, qu'ils nous disent en quoi? Mais sinon, pourquoi nous frappe-t-il? Donc il faudra tout d'abord être très ferme dans la foi, au point de vue doctrine, au point de vue de ces trésors qu'est la liturgie, la messe, on ne peut pas dialoguer avec eux. Car leur seule volonté, c'est de nous imposer tout cela. De ce côté-là, pas de dialogue. Il faut que nous soyons très fermes. Inébranlable dans notre attachement à tout cela, même intraitable, si vous voulez. Ce sont bien les effets des dons du Saint-Esprit, et en particulier des dons de sagesse, intelligence et science, que de cette fermeté dans la foi et dans la profession de foi, et dans tout ce qui touche à la défense de la foi. Mais il y a aussi d'autres dangers. Aussi par manque de patience, parfois, de résignation, d'humilité. On peut se prendre pour Alexandre le Grand et vouloir résoudre tout le problème, toute la crise de l'Église, avec un coup d'épée sur la question du pape. Et voilà. Or, en fait, si bien c'est un problème qui pose, question qui pose un problème à la conscience catholique, ce n'est pas le problème essentiel. Et puis, c'est une question douteuse. Tout au plus, on peut en avoir une opinion. Or, l'opinion, par définition, est douteuse. Et en tout cas, on n'est pas constitué prêtre pour prêcher des opinions, mais pour prêcher la vérité. Et puis, à mon avis, c'est une question inextricable. Dans l'état actuel des choses, c'est une question inextricable, sans solution. Nous n'avons pas les éléments théologiques, canoniques, nous n'avons pas l'autorité. Alors, à quoi bon s'entêter sur ces problèmes ? Et faire de cela presque un dogme. Notre devoir d'État est beaucoup plus simple. Nous devons garder la foi, la transmettre fidèlement, l'enseigner. Il ne faut pas se prendre pour le bon Dieu, vouloir, avec sa petite tête, résoudre la crise de l'Église. Nous avons bien l'exemple de Mgr Lefebvre. Des Mgrs de Castromaier, sont eux qui ont sauvé la tradition. tout simplement en gardant la foi. Et puis on attend. Il ne faut pas devancer la providence. Il y a aussi d'autres qui découvrent la poudre tout le jour dans la fraternité, n'est-ce pas ? Des découvreurs de ce qui est déjà découvert depuis longtemps. Et c'est un danger très réel, très réel. Un jour, il manque de l'étude, de la culture, de la fraternité. Un autre jour, il manque de la piété, de la prière, de la contemplation. Un autre jour, c'est la charité. Un autre jour, et ainsi on peut continuer. Mais chacun sa petite idée qui va résoudre tous les problèmes. Bien, c'est pas la peine, on n'a rien à résoudre. Souvent, on n'est pas d'accord avec l'autorité, avec la façon de gouverner des supérieurs. Alors, il faut un petit peu d'humilité, d'obéissance. Des modesties par rapport à soi-même. Bien sûr, on est prêtre. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On participe au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, ces trésors sont dans des vases d'argile. On reste, nous, tout petits, très faibles. Et donc, il nous faut en ces jours renouveler le désir de pratiquer les vertus qui nous sont les plus nécessaires, comme la force, la magnanimité d'âme, la patience, la constance, la persévérance dans le combat, mais aussi l'humilité. L'obéissance, la charité. Avoir un esprit surnaturel pour juger de toutes ces crises. Et en particulier, cher Sordinan, au sacerdoce, dans quelques instants, vous allez recevoir cette grâce de participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous allez recevoir ce triple pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il n'y a pas d'autre mystère. C'est par là, par ce triple pouvoir, et vous allez remplir votre saint ministère. Et c'est par là que vous serez vraiment un autre Christ. Car vous allez prêcher notre Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité. C'est vraiment le critère qui nous donne l'Écriture sainte. Pour reconnaître l'inspiration du Saint-Esprit, la confession de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité qui donne vraiment la liberté aux âmes. Vous allez les sanctifier en leur communiquant la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et principalement par le Saint-Sacrifice de la Messe. Et ensuite par tous les autres sacrements qui s'ordonnent à la réception de l'Eucharistie. Et puis vous devez les guider vers notre Seigneur Jésus-Christ et comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc avec beaucoup de sagesse, de prudence, Merci beaucoup de bonté. Un prêtre doit être non pas autoritaire dans l'exercice de ses pouvoirs de gouverner, mais plutôt paternel, charitable. Que les fidèles trouvent vraiment auprès du prêtre. La bonté de notre Seigneur Jésus-Christ est donc une vraie restauration. Et aujourd'hui, le bon Dieu a voulu nous donner un autre moyen extraordinaire pour l'apostolat. Et c'est le cœur de Marie. Et donc la dévotion au cœur immaculé de Marie. Une des figures du cœur de Marie de l'Ancien Testament, c'est l'Arche de l'Alliance, qui renfermait l'étape de la loi, la manne, et la verge d'Aaron, donc les symboles de la foi, l'Eucharistie et le sacerdoce. Renfermer donc ces trésors dans le cœur de Marie. Et c'est pourquoi il y a des saints qui appelaient le cœur de Marie le dépôt de la foi. Car comme le dit l'Évangile, Notre-Dame gardait toutes ces paroles, toutes ces choses dans son cœur. Et elle les méditait, elle les contemplait. Donc ce sera un puissant secours, le cœur de Marie, dans votre sacerdoce, et particulièrement dans les circonstances actuelles. Puis le cœur de Marie, c'est aussi ces aqueducs dont parle Saint Bernard. Et je pense que c'est là le cœur du message de Fatima. C'est nous révéler, nous dire que le bon Dieu se plaît dans ce cœur de Marie et qu'il veut que ce commerce entre le ciel et la terre, cet aller-retour entre les hommes et Dieu, s'efface par le cœur de Marie. Donc le bon Dieu se plaît à répandre les grâces par le cœur de Marie. Et qu'il aime être adoré, honoré par notre dévotion, notre culte, par le cœur de Marie. Et je profite pour vous rappeler donc le pèlerinage que nous allons faire à Fatima et surtout la consécration que nous allons faire. Chers prêtres, ces jours-là, il faudrait que même ceux qui ne peuvent pas aller à Fatima fassent leur consécration au cœur de Marie, dans les prieurés, dans les familles. Il s'agit de toucher le cœur de Marie afin d'obtenir au moins une amélioration de la situation dans l'Église. Alors faites des efforts pour mettre en disposition les âmes, pour faire une vraie consécration au cœur de Marie. C'est la volonté de Dieu. Et demandons donc en ce jour à la très sainte Vierge Marie de donner aux ordinants une grande générosité afin de remplir dignement, saintement leur ministère et d'aider ainsi à la continuité de l'Église catholique et d'aider les âmes à demeurer toujours catholiques et romains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.